花花，
下回吃饭你记得点地址。
Bonjour.
Alors, président directeur général d'Energiesat International et consultant, Pierre Domps travaille avec la Chine depuis 34 ans. Il mène avec Energiesat une activité de consulting et d'accompagnement, aussi bien en direction des entreprises françaises et européennes désireuses de développer leur marché en Chine et ou de s'y implanter, que des investisseurs chinois ayant pour objectif de nouer des partenariats durables en France et en Europe. Son dernier livre paru chez l'Harmattan en 2017 est « Le Big Bang des nouvelles routes de la soie ». Je signale qu'au cours de cet entretien, nous parlerons donc des BRI, B-R-I, Belt and Road Initiative, plutôt que des routes de la soie. Alors Pierre Domps, avant d'aborder ces fameuses nouvelles routes de la soie dont on parle tant aujourd'hui, j'aimerais que vous nous présentiez le projet que vous menez à Haining.
Alors c'est un projet important et qui me tient particulièrement à cœur, parce que le concept de base est le suivant. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui s'implantent en Chine et très souvent, elles n'arrivent pas à trouver de personnel intermédiaire. Je parle du point de vue industriel, c'est-à-dire des techniciens ou des techniciens supérieurs, alors qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et que, évidemment, le recrutement de du personnel ouvrier ne pose pas vraiment de problème. Donc l'idée a été de créer un parc industriel principalement dédié aux entreprises françaises sur lequel nous avons imaginé de faire un centre de formation sino-français et donc de former du personnel technicien et technicien supérieur sur le modèle français de telle manière que les entreprises françaises qui s'implantent trouveront du personnel conforme à leur propre personnel en France. Alors ma société, même si je suis le coordinateur général de ce projet, n'est pas une société de formation, donc j'ai fait appel à un grand organisme très performant dans ce domaine de formation qui s'appelle l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, et avec sa branche internationale Codifor, puisque l'UMM a en gros 150 centres de formation en France et il y en a plusieurs dizaines à l'étranger et qui sont animés par Codifor.
C'est le seul en Chine ?
Alors, il y a plusieurs parcs industriels qui sont considérés comme étant plus ou moins français, mais c'est à ma connaissance le premier sur lequel a été édifié ce centre de formation, qui est de toute évidence une grande attractivité pour les entreprises. Et je peux vous donner déjà des résultats, puisqu'il a démarré en septembre 2017. Et la première promotion des jeunes, alors les jeunes ont 2 ans de formation quand ils arrivent, et nous les prenons durant 3 ans. Alors on s'est installé, nous, dans le ce qu'on appelle le Haining Technical Institute, qui prodigue une formation théorique. Nous, on fait une formation pratique. Et la troisième partie, c'est en alternance en entreprise. C'est-à-dire que nous avons fait, bien sûr, avant de démarrer, une étude de marché auprès d'une cinquantaine d'entreprises dans la région de Shanghai, puisque Haining est au centre du delta du Yangtze, c'est-à-dire à la fois proche de Shanghai, proche de Suzhou et proche de Hangzhou, qui sont des grandes villes chinoises. Et on s'est aperçu que les entreprises nous disaient il y a des jeunes qui sont très bons du point de vue théorique, qui viennent soit des universités, soit des centres de formation, mais ils sont trop théoriques, et quand ils arrivent en entreprise, et notamment en usine, on est obligé de les former, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, selon les métiers. Et en plus, ils disent que quelquefois, après une formation de 9 mois, ils ne restent pas, donc c'est un coût qui n'est pas rentabilisé. Donc notre idée, pour arriver à leur donner satisfaction, c'est qu'on a décidé de faire une véritable usine à l'intérieur d'un centre de formation. C'est-à-dire qu'il y a un atelier. Dans cet atelier, il y a deux lignes de production. Une ligne de production totalement automatisée, c'est-à-dire que les matières premières arrivent d'un côté et en bout de ligne, il y a donc les produits finis qui sont mis en carton et prêts à être mis en camion. Et entre les deux, c'est une ligne qui est complètement automatisée avec des robots, ce qui permet aux techniciens chinois qui généralement connaissent la machine sur laquelle ils travaillent, mais ils n'ont pas une vue d'ensemble, d'être formés à ce qu'on appelle des conducteurs de lignes automatisées, et qu'ils auront la possibilité également d'intervenir du point de vue du SAV sur les premières. Au cas où il y a un petit problème, ils puissent le résoudre très, très rapidement. Et une deuxième ligne, qui, elle, n'est pas automatisée, c'est leur apprendre ce qu'on appelle le lean manufacturing, le lean management, qui est la meilleure manière de manager une usine selon le modèle Toyota. Et je pense que ce sera très bien pour eux. Et j'ai des exemples à vous donner, puisque les 30 premiers étudiants ont été pris d'assaut par les entreprises françaises qui étaient là. Elles se sont disputées entre elles parce qu'il n'y en avait pas assez. Et une société comme Faurecia, par exemple, nous a demandé dès le début septembre 2018, donc de cette année, de former de prendre 30 à 40 jeunes uniquement pour eux, donc une classe uniquement dédiée. Et ça intéresse d'autres sociétés. Parmi les sociétés intéressées, il y a des gens comme Saint-Gobain, comme Valeo, etc., qui s'intéressent. Il y a également des PME et des PMI, ce qu'on appelle les ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Donc il y a un très grand engouement. Et ce que je voudrais peut-être ajouter, qui est également un point important, on a été listé conjointement à l'industrie du futur et à son pendant chinois qui s'appelle Made in China 2025, c'est-à-dire la manière de moderniser, d'automatiser des usines et de les rendre compatibles avec tout ce qui a trait à l'informatique et autres.
Mais alors, quelle sorte de métier apprennent ces étudiants ? Alors, c'est une formation diplômante, il me semble. Et alors, on apprend quoi dans votre centre ?
Alors, déjà, sur le côté diplômant, ils ont en fait deux diplômes et deux certificats. Le diplôme, c'est un diplôme d'État qui est délivré par la municipalité, et c'est obligatoire dans le cursus chinois. Le deuxième, c'est ce qui est délivré par ce qu'on appelle le HTI, c'est Hanning Technical Institute. Et puis, l'UMM n'a pas le droit de délivrer des diplômes, mais par contre délivre ce qu'on appelle un certificat professionnel. Et dans notre projet, il se trouve également qu'on a intéressé une grande société qui s'appelle Schneider Electric, qui a décidé de faire un laboratoire pour former des jeunes, mais uniquement sur leur propre matériel. Nous, on a une vue totalement transversale, tandis que eux, donc c'est pour eux. Et donc, Schneider Electric également délivrera un certificat. Alors, ça, c'est la réponse à votre première question. La deuxième, ça laisse beaucoup de perspectives. Donc, ce sont des chefs de ligne donc automatisés, mais c'est transversal parce qu'on peut les retrouver dans pratiquement tout type d'industrie. hein, que ce soit de production automobile, aéronautique, mécanique, mais on peut le retrouver également dans les industries agroalimentaires, les imprimeries, etc. Donc ça laisse beaucoup d'ouverture.
Donc c'est une formation très large. Alors votre connaissance des échanges franco-chinois est celle d'un acteur de terrain et c'est à partir de votre expérience que vous êtes intéressé aux nouvelles routes de la soie, ce projet pharaonique lancé par Xi Jinping en 2013. Pourquoi Xi Jinping a-t-il souhaité placer son grand projet sous le signe des routes de la soie ?
Alors, effectivement, le nouveau président de la Chine est une personne très ambitieuse et qui souhaite marquer son temps. Et au départ, il s'est inspiré de ce qu'on appelait les routes de la soie. Mais maintenant, on dit les anciennes routes de la soie qui étaient beaucoup limitées, qui permettaient, c'était des axes commerciaux uniquement terrestres qui reliaient en gros la Chine au Moyen-Orient et qui permettaient d'écouler beaucoup de marchandises, de la soie puisque c'est le nom qui a été donné, mais également de la porcelaine, des épices, des tissus et autres produits. C'était pour des données sonnantes et trébuchantes. Il y avait même des armes qui étaient vendues. Ça a permis de faire en sorte qu'il y ait un côté réactif, si je peux dire. À la fois, les Chinois ont vendu, mais à la fois, ils ont appris des choses nouvelles, des cultures nouvelles. Ça a été un moyen également de véhicules ou de nouvelles religions ont été apportées en Chine par contre-coup. Donc ça a été un véritable échange. Mais je dois dire que la Chine ne l'a pas vu dans un côté guerrier. Elle voulait comprendre ce qui se passait dans des pays qu'elle jugeait comme étant barbares, certes, mais c'était pas leur faire la guerre. Alors ces nouvelles routes de la soie sont arrêtées quand même relativement rapidement dès que se sont développées les flottes maritimes, faire des routes ça coûte cher. Aller sur un bateau, on peut faire beaucoup plus sur un périmètre beaucoup plus large et de manière beaucoup moins chère. Et à ce sujet, toujours dans les mêmes époques, dans les 16e siècle à peu près, voire 17e siècle, comme vous savez, il y a eu des grands navigateurs, Marco Polo et d'autres. Et puis ces routes de la soie, ça fait rêver parce que ce sont les caravanserails, les contes d'Orient, un certain nombre de choses. Et il y a eu notamment un amiral qui s'appelle Zheng He, qui avait eu une flotte extraordinaire. Il avait 200 navires, 27 000 hommes, et on pensait qu'il allait détruire un certain nombre de ports ou annexer un certain nombre de territoires. Et en fait, non, il ne s'est jamais servi de ces canons sur les navires, mais il a fait du commerce, il est allé jusqu'en Afrique du Sud, et c'est ce qu'on peut appeler de la soft power, en fait. Hein. C'est utiliser le commerce, la diplomatie et autres, plutôt que d'avoir une attitude guerrière. Et juste peut-être pour ajouter également, mais c'était quelque chose de très intelligent, puisqu'il y a eu un amiral, je crois, portugais, qui s'appelait Alphonse d'Albuquerque, qui disait, qui possède les détroits d'Aden, d'Ormuz et de Malacca, en fait, a tout pouvoir sur le maritime et peut, en quelque sorte, domine le monde. Et c'est un peu ce qui a été fait à cette époque.
Et du coup, Xi Jinping ne manque pas de source d'inspiration. En quoi consiste justement cette stratégie globale de la ceinture et la route destinée à changer l'équilibre du monde à la faveur de la Chine qui reprendrait ainsi peut-être la place qu'elle avait au XVIIIe siècle ?
Alors, effectivement, ça traduit son ambition. Alors, je voudrais peut-être, pour situer les choses, ce vaste projet couvre 40% de la superficie mondiale, 70% de la population, dans des pays possédant 60% de la richesse et 75% des énergies reconnues à ce jour.
Et combien de pays ?
En gros, c'est entre 60 et 70 pays. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire peuvent se greffer un certain nombre de pays, puisqu'on parle également de rattachement aux pays d'Amérique du Sud, par exemple, alors que le projet initial, c'est de relier la Chine à l'ensemble du continent euro-asiatique et à l'Afrique. C'est un axe de développement commercial et de construction d'infrastructures de transport, à la fois par voie terrestre, c'est-à-dire rails, routes, pipeline, câbles, et de nouveaux ports pour renforcer les voies maritimes. Alors, les ambitions, en fait, on peut en situer peut-être cinq. C'est relancer l'économie dans un pays qui a changé de paradigme. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure, puisque la Chine, qui était connue comme un pays vendant des produits très bon marché en très grande quantité, s'est aperçu qu'il y avait des limites à mesure qu'elle devenait importante. Sa population aspirait à avoir des produits beaucoup plus sophistiqués. Et la Chine a décidé de changer de paradigme, notamment en essayant de privilégier sa consommation intérieure. La deuxième chose, vous savez, il y a beaucoup de concurrence entre les villes, les districts et autres. Chacun veut avoir toute l'industrie de manière un petit peu autonome. Donc il y a malheureusement en Chine un problème de surproduction industrielle et ça peut être également un moyen d'exporter cette surproduction. Troisièmement, c'est sécuriser l'approvisionnement énergétique et des matières premières. Comme vous savez, la Chine est très dépendante de l'étranger, notamment pour importer du pétrole, des minerais et d'autres produits. Et elle a toujours eu peur de se faire encercler. Et notamment, l'ancienne politique à l'époque de Hillary Clinton, c'était un petit peu de faire un cordon sanitaire, si je peux dire, autour de la Chine, ou du moins c'était ressenti comme tel par les Chinois. Quatrièmement, et ça c'est une éthique qui me paraît intéressante, c'est diffuser une richesse partagée ou le désir affiché de ce qu'on appelle le win-win. C'est la raison pour laquelle au départ le projet s'appelait One Belt, One Road, et maintenant on a attaché le I, donc c'est devenu le BRI, Belt Road Initiative. C'est-à-dire que les Chinois souhaitent que les pays traversés donnent leur point de vue dans les infrastructures à réaliser, sur la manière de les financer, comment voir, de telle manière qu'ils soient une partie prenante et non pas une partie à laquelle on impose quelque chose. Et alors, je ne sais pas si matériellement ça va se réaliser, si je peux dire pile poil, comme on le souhaite. Mais je pense que c'est une bonne idée directrice. Et enfin, on ne peut pas l'oublier, bien que ce soit moins dit dans les milieux politiques, je pense que c'est quelque part s'affirmer face au protectionnisme américain, et notamment celui du nouveau président américain, M. Trump.
C'est sûr. Mais alors, comment la Chine finance-t-elle ce méga projet qui coûte très cher d'ailleurs, je ne sais pas, 1 000 milliards de dollars ou plus ?
Alors, le projet global des nouvelles routes de la soie, normalement, devrait trouver un terme en 2049. Ça n'a pas été choisi n'importe comment, parce que 2049 sera le centenaire de la République populaire de Chine. Et durant cette phase, le projet est évalué, estimé à entre 800 à 1000 milliards de dollars. Et pour ce faire, la Chine a utilisé donc trois grandes banques qui ont été créées. Et il y a ce qu'on appelle le Silk Road Infrastructure Fund, la New Development Bank, et surtout le Asian Infrastructure Investment Bank, c'est l'AIBB, qui est très importante, puisque certains la comparent à la puissance du fonds du FMI et de la Banque mondiale. Et cette dernière banque a été dotée d'un capital de 100 milliards de dollars, donc ce qui n'est quand même pas rien. Et il est majoritairement abondé par les Chinois. Mais sont venus se greffer un ensemble d'États, puisque quand il a été créé, il y a eu 57 États. Il y a notamment les États européens qui sont venus. Et le premier d'entre eux a été la Grande-Bretagne de l'époque. Le Premier ministre était David Cameron, et qui a dit « If you can't beat them, join them ». On ne peut pas les battre, il vaut mieux être avec eux. Et donc ça a provoqué la colère des États-Unis, qui à l'époque était très proche de la Grande-Bretagne. Et dans la foulée, si je peux dire, sont venus d'autres pays européens, dont la France. Mais la France n'a été que suiveuse dans ce domaine. Et donc, par la suite, se sont ajoutés d'autres pays. Et notamment, il faut citer l'exemple du Canada de M. Trudeau, qui est quand même très proche des États-Unis. Je ne suis pas sûr que son adhésion ait fait grand plaisir au président Trump. Et dernièrement, j'ai lu un article un peu étonnant. Le président de la Banque du Japon a même dit « Tiens, ça ne serait pas totalement stupide, nous, de profiter de financement d'infrastructures que nous ne pourrions pas forcément faire nous-mêmes. » Donc, je veux dire, alors que les États-Unis et le Japon, évidemment, ne font pas partie de ce projet, il y a quand même des velléités qui en sont en train de naître, ne serait-ce que pour des raisons d'intérêt financier.
Bien sûr, c'est l'appât du gain. Alors finalement, avec ce que vous décrivez, il pourrait ne rester isolé sur la planète de ses routes que les USA.
Oui. Alors moi, ce que je trouve formidable, vous savez, pendant très longtemps, moi ça fait, vous avez dit 34 ans de Chine, en fait c'est 35 ans. Ah. J'ai démarré en 83. Et je me souviens qu'à l'époque et pendant très longtemps, les Occidentaux donnaient plutôt la leçon aux Chinois qui, après avoir été la plus grande nation du monde, était descendue, et ne serait-ce qu'avec les guerres de l'opium, et puis par la suite, les invasions japonaises, et puis le communiste Mao Tse-tung qui a beaucoup détruit au point de vue économique et richesse. Et donc, il est clair que... Donc pendant très longtemps, les Occidentaux ont donné des leçons, ont appris des choses aux Chinois qui étaient plutôt leurs élèves et les Occidentaux leurs professeurs. Et là, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les Chinois qui donnent de nouvelles pistes et aux Occidentaux. Et c'est la première, à ma connaissance, première grande nation qui a un projet à si long terme. Alors qu'en revanche, on pourrait espérer qu'un pays comme les États-Unis, qui est le premier pays du point de vue puissance économique, puisse avoir ce genre de proposition. On pourrait même penser que l'Inde, que la Russie... Bon, alors, la Russie a fait quelques constructions, mais qui ne sont pas véritablement abouties. Et puis, personnellement, moi, ce que je regrette, c'est qu'une région qui s'appelle l'Europe, avec beaucoup de talent, ne puisse rien proposer et qu'au contraire, elle se divise, se fragmente actuellement. Et c'est bien dommage.
D'autant plus que le sens de l'histoire a l'air d'aller dans le sens de l'Asie. Grâce à ces routes, est-ce que le yuan pourrait devenir une monnaie internationale ?
Alors, il y a plusieurs chapelles. Moi, je le pense un peu. Il y a un souhait marqué, puisque normalement, une monnaie doit refléter un petit peu son économie. Et les Chinois ont fait déjà beaucoup de tentatives de faire des contrats en yuan, en passant des accords avec un certain nombre de banques centrales. Et je crois que ça a commencé au niveau européen avec la Banque de Londres. Mais il y a maintenant pas mal d'opérations qui sont faites, et même des banques françaises maintenant commencent à faire des opérations en yuan. Alors, est-ce que ça ira jusqu'à le fait que le yuan, qui n'est pas une monnaie officiellement convertible, devienne une monnaie convertible et devienne une monnaie de réserve? Puisque je pense que la Chine aurait souhait qu'au même titre que le dollar ou la livre sterling, elle puisse devenir une monnaie de réserve. Je pense qu'il y a un cheminement dans cette direction, mais moi je ne suis pas un spécialiste en ce domaine, et j'ai rencontré un certain nombre de gens qui ont une meilleure connaissance que moi et qui n'y croient pas à court terme en tout cas.
Eh bien, nous verrons bien. En tout cas, ça pourrait changer beaucoup de choses en ce qui nous concerne. Il ne faudrait pas oublier non plus que ce projet pharaonique est mis avant tout en œuvre par des entreprises d'État.
C'est vrai. Alors ça, ça répond à la politique du président Xi Jinping. Moi, je le regrette un petit peu en tant qu'entrepreneur et surtout en emmenant des entreprises françaises en Chine, et parmi lesquelles il y a beaucoup de PME, PMI et des ETI. Et les Chinois, d'ailleurs, se plaignent que la plupart des prêts bancaires pour permettre aux entreprises de se développer soient plutôt... on privilégie plutôt les entreprises d'État. C'est une décision prise au plus haut niveau. Je pensais que ça allait se rectifier et finalement, non, ça a l'air plutôt de se consolider. Donc, bien sûr, pour ces grands projets que l'on trouve, ce sont plutôt des grandes entreprises d'État ou des entreprises qui sont à la bourse, soit de Shanghai, soit de Shenzhen, mais qui sont très liées à l'État et probablement très aidées par l'État.
Quel rôle joue l'Organisation de coopération de Shanghai dans la mise en place des BRI?
Alors, on en parle de plus en plus. La Chine essaye, pour pouvoir convaincre les États de la suivre, d'utiliser cette organisation qui existe déjà et qui réunit un certain nombre de pays, et y compris des pays comme l'Inde, qui n'est pas son ami privilégié, et pour essayer de développer. Peut-être autre chose que j'aimerais ajouter. Vous savez probablement que il y a une crainte, disons, on va venir peut-être aux peurs qui découlent de ce très grand projet, et un moyen d'espérer de l'endiguer ou de le contenir, selon le pays où l'on se place. Les États-Unis ont proposé notamment à l'Inde, au Japon, à l'Australie, de former un espèce de route de la soie à eux-mêmes, qui serait en parallèle pour endiguer un petit peu ce que veulent faire les Chinois avec leurs partenaires. Mais c'est quelque chose qui a été décidé un petit peu rapidement, alors que le plan chinois, à mon avis, a mûri déjà très longtemps avant même que le président Xi Jinping soit nommé. Il a repris un certain nombre d'études, à mon avis, qui étaient faites, parce que quand on voit comme il est si abouti, vous savez, il se développe comme un puzzle avec différentes pièces. Ce qui correspond d'ailleurs très bien à l'esprit de la culture chinoise, où on ne découvre jamais tout d'un seul coup, et puis d'un seul coup, au bout d'un moment, on voit que les choses commencent à se rapprocher, on comprend mieux les choses. Et je vais citer un exemple, c'est le port de Pirée, du Pirée en Grèce, où les Chinois ont racheté une grande partie, alors que la partie grecque végété complètement. Cette partie rachetée par les Chinois s'est beaucoup développée. Et on s'est aperçu que dans l'esprit des nouvelles routes de la soie, ça devait devenir un espèce de hub pour pénétrer le continent européen.
Alors les Chinois ont acheté à 67% par Costco le Piret. Et ils contrôlent déjà, dites-vous dans votre livre, 10% de la capacité des terminaux portuaires européens. On peut dire que c'est déjà bien engrangé. Alors finalement, pour quelles raisons devrions-nous nous intéresser en France et en Europe à ces nouvelles routes de la soie ?
Alors c'est une bonne question, parce qu'il faut quand même comprendre que les routes de la soie ont été faites surtout au départ pour relier toutes, on va dire, la mouvance ou le continent asiatique. Ça a été la première préoccupation chinoise. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus maintenant de décisions, de rapprochement avec des pays qui sont tout autour de cette région. Et il faut reconnaître que l'Europe occidentale est en bout de ligne. Donc construire des infrastructures et autres, c'est bien sûr intéressant et on en a besoin, mais il y a d'autres pays qui en ont plus besoin que nous. Et notamment en Europe, c'est ce qu'on peut appeler les anciens pays de l'Est, qui ont formé d'ailleurs une espèce de conglomérat qu'on appelle 18 plus 1, le plus 1 étant la Chine, et un petit peu critiqué d'ailleurs par la Commission européenne, les Chinois ont tendance à ouvrir leurs bras vers ces pays de l'Est plutôt que vers les pays. Par contre, quand même, il faut savoir qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont prises, notamment en matière de ferroviaire, puisqu'il y a maintenant, ça va arriver cette année ou l'année prochaine, quelques 5000 trains de marchandises emportant des produits qui vont, et des équipements qui vont venir de Chine et qui vont repartir après sur la Chine. Donc ça a été plutôt l'Allemagne qui a été le premier pays, avec notamment le nœud ferroviaire de Dresde. Et puis après, ça a été Lyon. Il y a des premiers trains qui sont arrivés à Lyon. Et puis il y en a un qui est arrivé en Espagne. Après, il y en a un qui est arrivé à Londres, qui est passé par le tunnel sous la Manche, qui est reparti plein de whisky d'ailleurs. Et nous, on a beaucoup envoyé de vin bordelais, je crois, en passant par Lyon. Mais le problème, alors, il y a plusieurs problèmes. Les trains arrivant de Chine sont mieux remplis que ceux repartant vers la Chine. Deuxièmement, ça présente un intérêt parce que par rapport à la voie maritime, en gros, il faut un mois de bateau pour aller d'un port chinois à un port européen, que ce soit Le Havre, Anvers ou autre, ou Rotterdam. Alors que lorsqu'ils viennent par le train, en fait, c'est beaucoup plus court. C'est entre 15 et 18 jours, on va dire 12 et 18 jours. Mais qui provoque quand même certains problèmes, puisque, comme vous savez, l'écartement des rails n'est pas homogène en Europe. Donc il faut faire des transbordements des marchandises qui sont embarquées. D'autre part, il y a des passages de douane qui, quelquefois, prennent un peu de temps. Il y a des États qui ne sont pas trop favorables à ce grand projet, donc les douaniers traînent un petit peu les pieds quelquefois. Mais c'est quand même intéressant parce que si on arrive à une quinzaine de jours au lieu de 30 jours, plus les formalités de douane au départ, à l'arrivée, quelquefois ça va même jusqu'à près de 40 jours, c'est un gain de temps considérable. Par contre, le train est beaucoup supplanté par l'avion qui coûte énormément plus cher et par le bateau qui coûte bien moins cher, mais qui a un temps d'approvisionnement qui est beaucoup plus long.
Alors jusqu'à présent, la France a manifesté peu d'intérêt pour le projet BRIC. Mais les choses changent et ce projet titanesque est maintenant soutenu par Emmanuel Macron.
Oui, effectivement, j'aurais tendance à dire heureusement. Moi, j'ai été très surpris que ce projet, dont j'entendais parler beaucoup, bien sûr, en Chine, puisque c'est un pays où je me rends très, très souvent, les médias français n'en parlaient pratiquement pas. Et quand on sait qu'il est pharaonique, qui couvre presque toute la Terre, du moins une grande partie, j'étais très étonné. Je pense que la France a progressé en attirant l'intérêt sur les routes de la soie par le voyage présidentiel qui a choisi comme première étape Xi'an, qui est la ville mythique des anciennes routes de la soie. Et je pense que le message a été très bien compris par le président Xi Jinping, puisque avant même de le rencontrer à Pékin, il est allé dans cette ville de Xi'an, où tout a démarré, dans l'ancien temps. Cela s'est traduit évidemment par un certain nombre d'avantages. Il y a eu des contrats qui ont été signés et qui sont intéressants. Mais également, je pense que la France a quelque chose à jouer, notamment dans les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, maritimes, technologiques. En matière de matériel de transport, de gestion de l'eau et des déchets, de villes durables, d'économie verte qui intéresse de plus en plus la Chine depuis qu'elle a signé les accords de la COP21 et elle essaye de monter en puissance et notamment de développer au maximum l'industrie, l'automobile électrique, tout ce qui est connecté pour essayer de diminuer la pollution dans les villes. Et puis il y a d'autres domaines qui sont plus traditionnels, c'est le numérique, c'est la transition énergétique, la recherche et la formation, l'intelligence artificielle. Et puis, on a l'habitude également de coopérer en matière d'énergie nucléaire et d'agroalimentaire.
Alors finalement, de quoi avons-nous peur en regard de ces nouvelles routes de la soie ?
Alors je crois qu'on n'a pas chassé nos vieilles peurs. Moi, je m'en souviens que mon grand-père parlait du péril jaune. Et je crois que c'est quelque chose qui restait un petit peu ancré dans nos mémoires. Mais bon, fort heureusement, avec le soft power, on peut dire que bon, la Chine n'étant pas un pays quand même belliqueux, les gens commencent à oublier cette vieille réminiscence. Alors, il y a des craintes justifiées internationales. Les Américains sont en opposition avec la Chine. Dans leur sillage, il y a un pays comme le Japon. Actuellement, les conflits qui ont entouré la crainte avec la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui fort heureusement ont l'air de s'arranger, ont donné des prétextes de présence proche des côtes chinoises d'un certain nombre de navires et de moyens militaires américains qui n'ont pas été forcément bien vus par les Chinois. Il y a également des craintes européennes, puisque la Chine, depuis un certain temps, a racheté un certain nombre d'entreprises ou pris des parts dans des entreprises importantes. On l'a vu dans le club Méditerranée, on l'a vu dans l'aéroport de Toulouse et dans bien d'autres industries, et notamment à l'échelon de l'Europe. La Chine a repris KUKA, qui est la plus grande société de robots, et au grand désespoir d'Angela Merkel, mais comme c'est une société privée, elle n'a pas pu intervenir directement. Mais sans vouloir dire, en comparaison avec ce que les pays occidentaux ont acheté aux en Chine, sur le territoire chinois, notamment par toutes les joint ventures qu'elles ont faites ou par des achats totaux. Je veux dire, on est la balance est quand même beaucoup plus en faveur des pays occidentaux. Et d'autre part, j'ai su également que les investissements chinois, dont on parle beaucoup à cause des anciennes peurs, je pense, représentent en fait une part largement minoritaire, par exemple, par rapport aux investissements américains encore sur notre territoire français. Alors, les craintes françaises... j'ai assisté dernièrement, enfin il y a quelques mois, au MEDEF, et c'est une conférence qui a été organisée par le comité France-Chine. Il y avait des gens de l'administration, et il y avait Jean-Pierre Raffarin. Et les gens de l'administration traduisaient une crainte en disant oh, les routes de la soie, c'est un emballage marketing qui est sans véritable contenu et qui est fait pour assurer l'hégémonie chinoise contre nous. Jean-Pierre Raffarin a une vue un peu différente en disant déjà il faut toujours communiquer avec les gens, même si on n'est pas toujours d'accord. Et d'autre part, il ne faut quand même pas oublier que ce vaste projet va susciter le développement, ne serait-ce que commercial, de richesses, hein, avec l'édification d'infrastructures, avec le développement de nouveaux ports, avec des échanges de produits, de services, etc. Et il a laissé entendre que ce serait dommage de regarder les trains passer sans entrer au moins dans un de ces trains. Et en tout cas, c'est mon avis. Je suis très solidaire de ce qu'il a dit. En plus, il a préfacé notre livre et je dois dire que j'en suis extrêmement honoré. Mais je pense que c'est une vue réaliste des choses. Il faut être assez pragmatique, ne pas faire trop preuve de dogmatisme en la matière. Le voyage présidentiel du président Macron a permis de repréciser les choses. Il a dit il ne faut pas que qu'un seul pays soit vassal de la Chine, parce que la Chine apporte des moyens de développement, etc. Il faut absolument conserver un partage équilibré. Et alors, est-ce que ça va être le cas ou pas? Moi, en tout cas, je l'espère. Et je pense que la Chine, si elle voulait tout imposer et écraser un petit peu les nations qui sont sur le cheminement de ces routes, ferait, à mon avis, une très grave erreur. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le souhait premier de la partie chinoise.
Eh bien, l'avenir le dira. Pierre Domps, merci.
花儿，咱俩回吃饭去。